Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission Une heure en Palestine, comme tous les mercredis, sur Radio Galère 88.4. Émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association française Palestine Solidarité et BDS Provence, qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Bonsoir.
Bernard. Et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à assopalestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Alors, nous allons consacrer cette revue de presse à la situation à Gaza et plus globalement à l'épineuse question palestinienne qui a rebondi le 7 octobre. Souvenons-nous, avant ce 7 octobre, nous nous époumonions sur cette antenne à dire et à redire que les médias avaient certainement réalisé un serment, celui de maintenir une omerta totale sur ce qui se passait à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem Est, et donc de ne jamais en parler. Que disaient de leur côté les Gazaouis à des amis qui leur rendaient visite ? Pour que l'on parle de nous, il faut que ça saigne. Leur prophétie catastrophe se réalise. Mais tous les médias, silencieux depuis tant d'années, portent une immense responsabilité d'avoir juré devant le dieu de la sous-information de ne jamais informer sur les crimes qu'Israël était en train de perpétrer depuis 1947 dans ces territoires. En y regardant de plus près, ce qu'on appelle les grands médias reprennent en cœur les refrains dominants sans information réelle. Nos chaînes d'information continuent depuis longtemps sont devenues depuis longtemps des chaînes d'opinion. L'absence d'informations sur la question palestinienne, après que tous les gros médias et les politiques, depuis Sarkozy, aient mis la question palestinienne sous un lourd tapis, a livré celles et ceux qui étaient éloignés du sujet à des approximations et des caricatures. Du genre, tous terroristes, Israël a le droit de se défendre. Les Palestiniens ont refusé les concessions obtenues à Camp David. Encore mieux, un florilège sioniste pour entendre que la Nakba permanente est constitutive de la naissance de l'État d'Israël. Par exemple, comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a personne à qui les rendre. Golda Meir, 8 mars 1969. Il n'y a jamais rien eu de tel puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. 15 juin 1969, toujours Golda Meir. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien, 1er avril 1988. Le sang juif et le sang des goy, des non-juifs, ne sont pas les mêmes. Le rabbin israélien Yitzhak Ginsburg concluant que « tuer n'est pas un crime si les victimes ne sont pas juives ». Jérusalem Post, 19 juin 1989. Chasser la population pauvre, sous-entendu les Arabes, au-delà de la frontière en lui refusant du travail, le processus d'expropriation et de déplacement des pauvres doit être mené discrètement, avec circonspection. Theodor Herzl, fondateur de l'Organisation sioniste mondiale, note du 12 juin, entendez bien, 1895. Et paradoxe suprême, Israël est arrivé à ce tour de force, transformer son rôle d'agresseur en celui de victime, puisque les moindres méfaits palestiniens occupent les antennes, alors que les meurtres à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est n'ont droit qu'à un profond et permanent silence. Alors oui, il semblerait que cette fois, les bouches soient autorisées à parler. Les journalistes les plus silencieux, les plus retors sur la question, osent donner la parole et affronter la vérité, parfois avec une injonction qui les déshonore. « Allez-vous me dire si ce qui s'est passé le 7 octobre est du terrorisme ? Allez-vous me dire si vous participerez à la manifestation de dimanche ?» Et revenir en hurlant à chaque fois un peu plus fort, accrochés comme des arapèdes à leurs questions. Le journaliste des médias mainstream ne lâche jamais son interlocuteur. Mais comme ce sont des journalistes de révérence, jamais arapèdes avec le pouvoir, président et ministre, ou les grandes fortunes avec lesquelles leur acharnement disparaît. Ils redeviennent les vrais chiens de garde du système. Avant de passer la parole à Jean-Yves, je voudrais la laisser à Ronnie Broman, l'ex-président de Médecins sans frontières, qui a déclaré ceci sur TV5 Monde à propos de la manifestation de dimanche dernier.
Vous n'irez pas manifester ce dimanche à Paris?
Non, je n'irai pas manifester ce dimanche parce que je trouve que c'est totalement déséquilibré et que dans le contexte actuel, c'est plutôt une marche en soutien à Israël qu'une marche en soutien aux Juifs. Car Israël, aujourd'hui, met en danger les Juifs. Je recommande aux lecteurs qui pourraient être curieux un livre de Sylvain Sipel qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs, qui explicite très bien cela. Israël nous met... Moi, je suis juif. Je considère qu'Israël me met en danger. Israël est non seulement l'endroit où les Juifs sont le plus en danger au monde, mais Israël met en danger les Juifs du monde.
Vous avez peur, vous, d'ailleurs, de ce, personnellement, de ce qui est pour vous et pour...
Moi, je n'ai pas peur parce que j'ai été déjà de multiples reprises menacé et que j'en ai pris une certaine habitude. Je signale que, personnellement, les menaces que j'ai reçues étaient des menaces de la part de pro-israéliens qui décrivaient par le menu ce qu'allait devenir ma cervelle quand mon crâne cognerait contre un bout de trottoir. Donc, c'est malheureusement de là que sont venues les menaces qui me sont adressées.
Merci beaucoup, Ronnie Broman.
Voilà, sans commentaire, parce qu'il faudrait un temps infini pour analyser ces propos. Oui. Jean-Yves, oui. À toi. Et tu as quelques autres points d'actualité.
Voilà. Et du temps aussi pour analyser les propos de certains journalistes. Quand certains disent « c'est pas la même chose de tuer des enfants avec une Kalachnikov » et puis en balançant des bombes qui risquent de tuer des enfants.
Oui.
On voit à quel niveau se situe le risque avec plus de 5000 enfants tués depuis le 7 octobre.
Est-ce qu'on peut la nommer, celle qui a dit ça?
C'est une... Alors,
Caroline Fourest,
Caroline qui Fourest, s'est spécialisée. Voilà. Il y en a une autre aussi, d'un autre journal qui a dit la même chose. Mais c'est comme Pascal Praud qui, quand on lui demande « Est-ce que vous condamnez le bombardement de Gaza ?» qui dit « Surtout pas, Israël se défend. »
Oui.
Et voilà.
C'est...
On est dans une situation pré-fascisante avec tous ces gens qui disent qu'Israël, on doit les soutenir inconditionnellement. Et ça, au plus haut niveau de l'État, puisque c'est ce qu'avait dit Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Donc, quelques infos. Mariam Aboudaka a été arrêtée dans la nuit du 8 au 9 novembre par des policiers civils après que le Conseil d'État ait validé son OQTF, ordre de quitter le territoire français. Donc elle a été mise dans un avion pour le Caire le 10 novembre, alors qu'elle était toute prête, elle avait déjà son billet d'avion pour le 11, donc ils l'ont quand même mise pour montrer « attention, on est les plus forts et puis surtout, on ne veut pas de gens comme ça chez nous ». Elle est qualifiée de terroriste. Elle a perdu un certain nombre de membres de sa famille à Gaza pendant qu'elle était en France. Et donc, on a une situation totalement affligeante. Voilà.
Elle a fait une conférence absolument géniale à Marseille, justement,
oui.
Sur la question palestinienne et sur la question des femmes en Palestine.
Oui. Alors, donc... Oui, je disais, la France est dans une situation préfascisante, avec toutes les interdictions préfectorales qui pleuvent. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui arrivent à être annulée par le tribunal administratif, mais quand même. Bientôt, manifester pour la Palestine sera criminalisé, comme le demande Éric Dupond-Moretti dans sa dernière circulaire, celle du 10 octobre, qui est un peu passée inaperçue. Mais c'est un petit document de 3 pages, et le garde des Sceaux écrit « La survenance des attaques terroristes le 7 octobre est de nature à engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite. » Voilà, dégradation de lieux de culte, propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie du terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme. La logorée habituelle. Hein. Et il ajoute, cependant, les atteintes à l'intégrité physique des personnes pour des motifs discriminatoires appellent une réponse pénale systématique et empreinte de fermeté, privilégiant la voie de la comparution immédiate. On sait comment fonctionnent les comparutions immédiates. Alors, il y a des exemples aussi. Brandir un drapeau du Hamas en manifestation peut être constitutif du délit d'apologie du terrorisme. Je rappelle, puni jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Éric Dupond-Moretti estime également que tombent sous le coup de cette qualification les propos vantant les attaques en les présentant comme une légitime résistance à Israël, tout comme la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique. Donc voilà, aujourd'hui on en est, alors qu'il est de notoriété publique quand même que si le Hamas a commis des actes terroristes, sachant que la notion de terrorisme, elle n'est pas définie juridiquement, hein, s'ils ont fait des actes terroristes, c'est quand même un instrument de la résistance à l'occupation israélienne. On a l'impression, entendre les radios et les télés, qu'aujourd'hui, tout a commencé le 7 octobre et qu'avant, il ne s'était absolument rien passé depuis 75 ans que le peuple palestinien est soumis à Israël.
Et puis le ministre fait ces déclarations tonitruantes le soir, pendant que la journée... Il ne peut pas exercer son ministère puisqu'il est au tribunal pénal de la République qui juge les incartades de tout ce qui est les ministres, les députés et compagnie. Voilà. Donc il aura...
C'est pas que des incartades. Hein,
c'est...
Parfois, ça va plus loin que des simples incartades. Donc voilà. Alors, par rapport aux chiffres, on a quelques chiffres aujourd'hui de la situation. Je suis en train de chercher les derniers. J'ai ceux du 8 novembre sous les yeux, hein, du ministère de la Santé de Gaza. Donc c'était mercredi dernier, ça doit être ça. Le bilan de l'agression israélienne s'est élevé à 10 569 martyrs, dont 4 324 enfants. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 000. Plus de 3 000 Il faut savoir. Voilà, donc il y a 2550 signalements de personnes disparues, parmi lesquelles 1350 enfants. Ces personnes-là se trouvent certainement toujours sous les décombres depuis le début de l'agression. Et donc, en même temps, les Israéliens ont intensifié les attaques contre le personnel de santé, conduisant à la mort de 193 membres de personnel de santé, à la destruction de 45 ambulances. 120 établissements de santé ont été ciblés et 18 hôpitaux et 40 centres de santé ont été mis hors service. Aujourd'hui, donc, en plus, l'armée israélienne a envahi l'hôpital Al-Shifa, qui est le principal hôpital de Gaza, dans lequel les Gazaouis ont dû enterrer en catastrophe, une centaine de morts qui étaient en train de se décomposer dans la cour. Donc voilà la situation catastrophique pour Gaza. Et quand on sait que 45 à 48% des bâtiments de toute la bande de Gaza ont été détruits, on imagine quelle sera la vie des gens qui vont rester une fois que les Israéliens accepteront de ne plus bombarder. Mais on sait aujourd'hui que pour qu'ils acceptent ça, il faudra leur tordre le bras. Ils ne le feront pas de même.
Et un peu plus.
Netanyahou a trop à perdre dans l'histoire. Donc, bon, vas-y.
Je voulais dire qu'après ce que tu as dit précédemment, on se retrouve dans le ratio habituel, c'est-à-dire que chaque fois qu'un Palestinien est tué dans une bataille, enfin une agression habituelle, les agressions habituelles d'Israël, il y a un Israélien qui meurt pendant que 10 Palestiniens perdent la vie. Donc on est encore dans ce ratio de 1 pour 10, hein.
Alors, dans le monde diplomatique de novembre, la présidente, donc il y a un article qui dit le 19 octobre 2022, la présidente de la Commission européenne disait au Parlement de Bruxelles, les attaques ciblées contre des infrastructures civiles, dans le but évident de priver des hommes, des femmes et des enfants d'eau, d'électricité, de chauffage à l'approche de l'hiver. Ce sont des actes de pure terreur et nous devons les qualifier comme tels.
C'était pour l'Ukraine.
C'est Madame Ursula von der Leyen en octobre 2022. Mmh. Aujourd'hui, après le massacre de centaines de civils de l'opération militaire conduite par le Hamas, le ministre de la Défense israélien annonçait le siège complet de Gaza en ces termes. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Donc ça, c'est un an plus tard. Et bien entendu, Madame Ursula von der Leyen, elle dit « Vous avez raison, Israël a le droit de se défendre ». Donc voilà un scandale de la Commission européenne.
Alors, pour continuer, nous allons essayer de faire ce qui aurait pu être réalisé dans un système d'information équitable. Et nous allons essayer aussi de remplir les vides laissés par la sous-information générale de l'omerta perpétuelle. Et nous allons commencer par la réaction du général de Gaulle à la guerre des Six Jours, qui fera office d'ouverture au comblement de cet immense silence. Suivront Hubert Védrine, Alain Corvez, ex-colonel de l'armée française, Karim Zeribi, Ronnie Broman, Guillaume Ancel, un député belge non identifié, une journaliste de LCI, et Belig Nabli, professeur de droit international. Voilà, Sidi, on envoie, merci.
Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme.
Alain Corvez, Monsieur Corvez, vous êtes avec nous, on l'a entendu, Ronnie Broman disait tout à l'heure, en 45 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Vous avez participé également à la FINUL. Que pourriez-vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe dans la bande de Gaza ?
Je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit René Broman. J'ai une différence avec lui, c'est que la propagande de guerre israélienne s'est déchaînée dès le début des hostilités et qu'elle a essayé de faire passer les terroristes, la résistance israélienne du Hamas comme une résistance terroriste. Et je ne vais pas revenir sur tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais dire en prenant un peu de recul que c'est une inversion des réalités. Les terroristes, ce sont les Israéliens et ceci depuis 1947. Donc on connaît tous les détails de leur comportement depuis qu'ils se sont installés dans les territoires que les Nations Unies leur avaient confiés. Ils n'ont cessé de vouloir augmenter leur possession et d'opprimer et de martyriser les Palestiniens. En prenant un peu de recul, je voudrais dire que je considère en tant que géopoliticien que la résistance héroïque et dramatique à cause du nazisme fasciste régime israélien actuellement, cette résistance héroïque des Palestiniens représente et est un catalyseur qui va permettre de bouleverser le monde. Nous entrons avec ce conflit dans un nouveau monde multipolaire qui met enfin à bas le monde dirigé par les États-Unis d'Amérique et par les sionistes à Tel Aviv. Car il faut bien comprendre que le monde occidental, s'il est devenu aussi pitoyable qu'il l'est actuellement, c'est parce que il s'est aligné, car il a été conquis, complètement subjugué par les forces sionistes et américaines. Aujourd'hui, j'espère, et je pense, je suis même convaincu, que le combat des Palestiniens pour soulever l'oppression qui dure depuis 75 ans est un facteur déterminant qui va permettre aux autres peuples qui sont opprimés, bien sûr moins tragiquement et dramatiquement que les Palestiniens aujourd'hui, mais qui sont néanmoins sous la soumission de gouvernements qui ont été mis en place par une technocratie riche en milliards de dollars et qui domine tous les médias. Et on voit bien, les chaînes françaises, mais les chaînes de tous les pays européens ne font que dire qu'Israël a le droit de se défendre. Donc il faut absolument soulever cette oppression des médias et des gouvernements européens qui ne font que transformer la vérité au seul profit des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Car si Israël a pu se comporter comme il s'est comporté depuis 1947 et comme il se comporte aujourd'hui, et j'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais qu'ils vont aller jusqu'à l'extermination totale. Ils ne s'arrêteront pas, quelles que soient les réactions internationales, ils ne s'arrêteront pas.
On va revenir
donc,
sur les objectifs.
C'est ça le danger, c'est que les États-Unis d'Amérique sont en perte de puissance dans le monde entier, ils le savent.
Je crois que c'est plus qu'une crainte, c'est une certitude. Comment un pilonnage pareil, un martèlement de bombes sur une zone aussi densément peuplée, pourrait-elle ne pas écraser des gens en dessous? Il y a à l'évidence des centaines, voire des milliers de corps peut-être qui sont en dessous. Il y a je m'aventure sur le plan sur le terrain d'une doctrine militaire, mais enfin, on avait déjà vu, par exemple, en Somalie en 91. Des généraux annonçaient qu'une offensive allait avoir lieu dans tel quartier de Mogadiscio. Tous ceux qui ne tiendraient pas compte de cet avertissement seraient considérés comme des ennemis, y compris les journalistes américains. C'est dire que ce genre de doctrine peut donner lieu à des pertes humaines massives. Là, aujourd'hui, on a quelque chose comme 15 000, peut-être 20 000 blessés, dont l'immense majorité, je pense l'écrasante majorité, n'est pas en mesure de se soigner. Les hôpitaux manquent de tout, de matériel jetable, de médicaments, de pansements, de carburant, d'électricité. Comment voulez-vous soigner des gens quand vous avez les mains liées dans le dos de cette façon? Donc, sur le plan, disons, de même simplement de la survie immédiate, la situation est épouvantable, elle est extrêmement angoissante.
Le point de vue israélien avec vous, Rina Bassis, puisque on a vu hier un Netanyahou très offensif qui d'ailleurs a immédiatement déclaré « le changement a commencé », c'est-à-dire que la journée d'hier a été un tournant dans ces 20 premiers jours de conflit, et le Hamas ressentira notre colère. Ils ne peuvent plus s'arrêter, fût-ce au prix de nombreuses vies humaines.
On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas si cette offensive terrestre aura lieu demain, après-demain, dans deux jours. C'est une question justement que M. Netanyahu doit trancher. Et pour l'instant, on a l'intention que la décision n'était pas encore tout à fait prise. C'est vrai que la situation a beaucoup accéléré. Hein. Les attaques depuis deux, trois jours ont accéléré de façon signifiante. Mais c'est pas encore tout à fait cette offensive et terrestre. Il faut aussi dire que on est dans une...
Ça, elle dit officiellement, c'est un champ de bataille. C'est-à-dire que
tout à fait.
Y a une façon d'expliquer que à partir de maintenant, il n'y aura plus d'humanitaire, notamment, et qu'il s'agit d'un terrain de guerre.
Il n'y en avait pas. Hein.
Oui, mais il faut aussi dire que on est dans une situation où, au début, après le 7 octobre, on pensait que peut-être les terroristes de Hamas qui vont décider de s'enfuir avec la population qui est partie du nord de la bande de Gaza, qui est allée vers le sud. On pensait que peut-être ça sera le cas. Peut-être il y aura plus en fait des terroristes de Hamas sur cet champ de bataille futur, si on peut le dire. On voit aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce que les tirs de roquettes continuent, et même le soir, il y avait encore des tirs de roquettes, ça continue en ce moment, et des sirènes qui annoncent en Israël, au centre d'Israël, là, même pas dans le sud, à Tel Aviv, il y avait des roquettes qui a heurté un immeuble à Ramat Gan. Donc, ces terroristes-là, ils sont toujours dans le nord de la bande de Gaza et ils sont prêts à la bataille. Ça, c'est clair. Pour eux, bien sûr, la population en place, ils s'en fichent complètement.
On en reparlera tout à l'heure, notamment sur l'aspect militaire des opérations. Pas de hasard, Gallagher Fenwick, il y a quelques minutes, le Hamas a proposé la libération de tous les prisonniers palestiniens contre la libération des otages, c'est-à-dire... malgré tout, une tentative de négociation ou de dialogue à un moment où Tsahal dit « c'est un champ de bataille et nous poursuivons ».
Et juste après que Tsahal ait dit que l'armée israélienne considère qu'il n'y a pas de négociation sérieuse ou digne de ce nom à ce stade. C'est-à-dire qu'ils estiment que le Hamas n'est pas sincère dans les propositions qu'il fait ou alors qu'elles ne sont pas recevables. Et donc, elle plonge Gaza dans le noir, un vide... informationnel et dans lequel finalement nous sommes également plongés, comme vous l'avez très bien dit, en ayant pour seule source d'information que ce que l'armée israélienne veut bien nous dire, sachant que dans le champ informationnel, elle livre aussi une bataille. Donc il faut tout prendre avec un grain de sel. On a énormément de mal à voir ce qui s'est passé dans la bande de Gaza aujourd'hui pareillement, parce que les images qui sortent sont rares et lapsus révélateur à proximité de la bande de Gaza également sont déclarées zones militaires, donc on a des choses qui sont filmées au téléobjectif.
Ce que l'on voyait là en direct,
mais,
hein, effectivement,
mais on peut imaginer
pris de loin.
Si vous voulez, le niveau de dévastation qu'il y a et le bilan humain qui va l'accompagner. Et c'est évidemment fait pour entraîner une sidération, mais franchement, que je partage, j'ai beaucoup de mal à voir le sens de cela. C'est-à-dire l'objectif, militairement parlant et moralement parlant.
Oui, parler en tout cas, Sylvie Berman, d'une hypothétique libération des otages contre les prisonniers palestiniens, c'est aussi une guerre psychologique, parce que ça peut à nouveau semer le doute dans la société israélienne, on y reviendra un peu plus tard.
Oui, bien sûr, dans la société israélienne, parce que les familles des otages ont déjà commencé à protester parce qu'ils ne connaissent pas les buts de cette intervention et quel est le sort des otages. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les otages binationaux et qu'il y a une inquiétude dans un certain nombre de pays également.
Bien. Oui,
non, les familles des otages, pour en avoir écouté plusieurs, sont vraiment très, très en colère. Et j'écoutais notamment le cousin d'un Israélien qui est otage du Hamas et qui disait que pour la première fois depuis 3 semaines, il n'arrivait plus à contenir ses larmes et sa rage à l'égard de Netanyahou en disant que des Israéliens étaient probablement en train de bombarder des Israéliens.
La question est catastrophique. C'est-à-dire qu'après 3 semaines de siège, on commence à avoir des morts dans la bande de Gaza qui ne sont pas liés à la guerre, mais uniquement au siège. C'est-à-dire au manque d'eau, à la pénurie d'alimentation, et puis surtout dans les hôpitaux. On sait qu'il y a à peu près la moitié de la capacité des hôpitaux qui est neutralisée du fait de la guerre, des bombardements, de l'absence d'électricité. Et donc, ce sont des blessés ou des malades qui devraient être sous traitement qui meurent aujourd'hui. Ce sont des enfants qui commencent à avoir des problèmes mais très graves de malnutrition ou qui pourraient être soignés de manière bénigne et qui meurent. Donc, le siège de Gaza commence à faire plus de victimes que la guerre elle-même. Et ça, c'est une situation qui est intolérable parce que on ne peut pas dire que c'est destiné à détruire les capacités militaires.
Là, c'est des civils qui sont en première ligne à ce moment-là.
Là, ce sont uniquement des civils. Et ce sont, pardon, mais des innocents, quoi. On peut pas impliquer les enfants sur ce qui s'est passé, ni dans l'attaque du 7 octobre, ni dans la guerre contre le Hamas.
Chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien. Le peuple palestinien qui souffre beaucoup aujourd'hui et Monsieur le ministre, j'aurais voulu vous interpeller sur cette situation intenable. Situation intenable dans la bande de Gaza où des manifestants pacifistes se sont fait tirer dessus par des snipers avec des balles exprès pour faire mal, pour déchirer les os, pour déchirer les muscles par l'État israélien. Et chers collègues, une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale et plus particulièrement de l'Europe et de la Belgique. N'importe quel autre pays au monde aurait fait le quart de la moitié de ce que fait Israël, on aurait déjà plaqué un embargo. N'importe quel autre pays du monde aurait été chercher une telle répression, appliquer une telle répression, qui aurait déjà eu des motions et des sanctions. Mais non, quand il s'agit d'Israël, on se tait. Quand il s'agit d'Israël, on fait quelques déclarations, mais surtout, surtout, aucune sanction. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi tellement intervenir contre les autres pays et jamais prendre des sanctions contre Israël? Ça, c'est la question que l'ensemble des peuples du Sud nous pose comme question. Pourquoi cette hypocrisie? Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, monsieur le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Lorsque le peuple sud-africain se battait pour l'égalité des droits, ils sont battus contre l'apartheid, comme l'apartheid aujourd'hui existe en Israël. Seules des sanctions internationales et la lutte du peuple sud-africain ont permis de lever l'apartheid dans ce pays. Il n'y a pas d'égalité entre le colonisé et le colonisateur, comme il n'y avait pas d'égalité entre le peuple noir en Afrique du Sud et l'État sud-africain. C'est ça la question, c'est ça l'hypocrisie dans laquelle on est. Il n'y a pas deux côtés à voir. Il est temps de prendre parti. Et prendre parti, vous le savez tous ici, et c'est ça l'hypocrisie du côté des partis de droite, c'est que Israël n'entendra aucun autre message que la pression économique ou la pression militaire. Mais vous le savez très bien, maintenant qu'ils ont l'appui des États-Unis, ils s'en foutent complètement des petites déclarations. Vous le savez. Et c'est ça qui est hypocrite. Un petit fax qu'on envoie, une petite convocation. Il est temps de prendre des mesures aujourd'hui parce qu'il y a un peuple palestinien dans la bande de Gaza. 95% de l'eau n'est pas potable. Que ferions-nous? Que ferions-nous si nous étions là? 45% de chômage, et on regarde, on regarde. Alors cette hypocrisie à l'Union européenne, monsieur Renders, il serait temps de la dénoncer, et si vous voulez vraiment faire avancer les choses, vous auriez pu prendre un acte bilatéral qui est celle d'expulser l'ambassadrice, comme l'autorité belge, vous auriez pu le faire, et c'est regrettable que vous ne le faites pas, et c'est vraiment hypocrite.
Il faut le rappeler, Israël se départit de ses obligations internationales et du respect du droit international en général, y compris en matière de droit international humanitaire, puisque la situation que vous avez rappelée relève en partie de crimes de guerre, voire d'une entreprise génocidaire. Je pourrais revenir sur les définitions
pour l'instant, les crimes de guerre et le génocide, c'est plutôt Israël qui en a été victime. Preuve à l'appui, hein. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment avec les otages, mais,
oui,
mais l'attaque initiale avec les images, je veux dire, tout est parti de là. Mais enfin, je vous laisse quand même poursuivre.
Oui, mais ça ne marche pas comme ça en droit international, c'est pas chronologique. C'est pas parce que votre ennemi a commis des actes que vous bénéficiez d'une impunité dans votre réaction. C'est la définition des limites internationales.
Il n'y a pas de massacre volontaire. On l'a vu aussi, les chars israéliens escortés des Gazaouis qui se dirigeaient vers le sud du pays. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans la manière pour le Hamas de traiter les Israéliens auxquels ils ont eu affaire. Je rétablis juste le
non non mais vous faites, hein, mais non, non, vous faites, vous dites ce que vous voulez. Moi je me fie à la définition du droit international par rapport aux images et aux faits qui sont qualifiés également par des experts internationaux onusiens et ce à quoi on a assisté notamment à travers les bombardements sur Gaza relève de crimes de guerre. Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui contestent ce fait là de la même manière que du point de vue du droit international, ce qu'a commis le Hamas relève de crimes de guerre, voire d'un crime contre l'humanité.
Ou du terrorisme. Peut-être pas.
Mais non,
certains pays le disent. Hein.
Non, mais c'est pas ça. C'est un acte terroriste du fait de ce qu'il est matériellement. Oui, si vous voulez, mais le droit international, ça n'existe pas.
Alors, quand on parle de cessez-le-feu en ce moment, aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi trop demandé à Israël que de demander un cessez-le-feu complet, sachant que qui dit cessez-le-feu dit en général négociation, et qu'a priori, on ne négocie pas avec, alors là encore, un mouvement terroriste. Et que par ailleurs, s'il y a un cessez-le-feu, ça peut permettre aussi au Hamas de se réorganiser, parce que j'imagine qu'ils les attendent, les soldats de Saint.
Oui, c'est un bon résumé de la position israélienne.
Effectivement, c'est un argument que j'ai pu lire dans la presse.
Vers votre collègue, qui pourra attester que c'est ça exactement le résumé de la position israélienne.
Mais est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle est audible? du point de vue du droit international, non, elle peut être discutée dans la mesure où, encore une fois, Israël, en tant qu'État souverain, est également ce qu'on appelle un sujet du droit international. Il est soumis à des obligations qu'il ne respecte pas, de fait, y compris en matière humanitaire. C'est ce qui met les États-Unis et la France dans une situation délicate, en particulier les États-Unis, puisque leur credo historique, c'est le soutien inconditionnel. Mais à partir du moment où vous avez posé comme position diplomatique un soutien inconditionnel, vous n'êtes pas en position, dans un second temps, de pouvoir véritablement négocier une inflexion de la position israélienne. Donc, ça donne ce moment de faiblesse diplomatique américaine, y compris du côté de la France, où on a vu quand même une position qui a évolué, parce qu'on a bien vu qu'on n'avait pas de marge, notamment, pas d'appréciation, mais de négociation avec le partenaire israélien. Et c'est un bon réflexe que de se tourner vers l'ONU, qui, a priori, formellement, est quand même l'institution internationale la mieux placée, la plus légitime, pour trouver une solution diplomatique, pacifique à ce conflit. Le problème, c'est qu'encore une fois, l'ONU a fait la démonstration de son impuissance dans ce conflit, d'abord ne serait-ce que pour prendre des décisions contraignantes. Parce que le problème, c'est que l'ONU est neutralisée par le jeu des puissances et des alliances. Les États-Unis exprimant à nouveau leur soutien inconditionnel, ils ne laisseront jamais passer une résolution qui n'irait pas dans le sens de l'intérêt ou de la volonté israélienne.
Alors à ce stade, on va faire évidemment l'habituelle pause musicale et c'est Kenny Arcana, une rappeuse française d'origine argentine.
Ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Calomniés même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendons soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendons soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme si voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.
Merci Kenny. Et maintenant, on va revenir à des extraits d'archives audio. Et d'abord, un vif échange entre Gisèle Halimi et Enrico Macias lors de l'émission Riposte sur la 3. Le chanteur crie à l'antisémitisme parce que l'Algérie lui a refusé un visa d'entrée sur son sol. À tout propos, il crie, comme le CRIF ou Netanyahou à l'antisémitisme, le député au Parlement belge Nabil Poukili s'étonne qu'aucun drapeau palestinien ne voisine avec les drapeaux israéliens. Alors, il en sort un en pleine assemblée belge. Sylvain Kipel, lui, auteur de l'État d'Israël contre les Juifs, est interrogé sur la vie quotidienne des Palestiniens. Donc nous écoutons un échange entre Gisèle Halimi et Enrico Macias. Ça n'a pas rapport direct avec la Palestine, mais c'est très intéressant du point de vue sioniste.
Ce que je trouve grave dans ce que vous avez dit et qui engage beaucoup votre responsabilité, c'est de dire que vous avez été rejeté. En fait, vous n'êtes pas interdit, mais on vous a dit de ne pas venir parce que juif.
Il n'a pas eu de visa, c'est tout.
Ça n'est pas ça. En même temps, mais regardez la contradiction de votre attitude. En même temps, vous dites. Moi, je suis pour Israël. Or, vous savez très bien que Israël est considéré par l'Algérie comme un pays ennemi. Vous savez très bien, pour en revenir à la colonisation, que le Mossad a apporté son aide dans la répression dans le Constantinois. Vous savez que dans l'OAS, moi, je revois Tixier Vignancourt, l'avocat de l'OAS, me dire au palais...
Tout ce que fait
Gisèle,
le Mossad et
vive,
tout ce que fait Israël, c'est pour les Juifs du monde entier qui sont... Comment
Non, je termine. Alors, posez
votre question. Vous avez dit vive Israël.
Attendez,
il faudrait
que
vous
votre bouche. Je suis en train de dire Tixier Vignancourt.
Non, mais revenons.
Laissez-moi finir.
Qu'est-ce qu'il faut que je sois anti-israélien pour aller en Algérie? Jamais. C'est ça que vous me demandez?
Vous me dites qu'il y a. Donc, c'est pas en tant que juif.
Mais si.
Non.
Mais si, parce que les juifs sont des Algériens au départ. Les juifs sont des Algériens.
C'est
les premiers habitants. Faut pas confondre, faire l'amalgame entre les juifs et les pieds noirs.
Politique qui a été prise à votre égard.
Eh bien alors,
politique.
Eh ben, la décision politique, c'est parce que je suis juif et que je soutiens Israël. C'est simple.
Ok, vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse.
Je ne connais pas, et ce n'est pas valable pour l'Algérie seulement, c'est pour tout le Maghreb qu'on connaît un peu. Je ne connais pas un seul juif, originaire ou pas de ce pays, qui aurait voulu retourner voir ce pays et qu'on aurait empêché de venir uniquement parce qu'il était juif. Ça n'existe pas.
Moi, je
suis un
politique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Vous êtes ridicule, madame.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
C'est une décision politique.
Vous vous parlez pour vous, parce que vous avez le droit de rentrer après tout ce que vous avez fait en Algérie.
J'ai le droit de rentrer partout, moi.
Ah oui, non, mais partout.
Bah oui, je ne sais pas.
Peut-être qu'en Israël, vous n'aurez pas le droit de rentrer.
Ben, j'en viens.
On peut revenir. Non,
ok. Ils ne connaissent pas votre passé, alors.
Si, ils connaissent.
Ils ne connaissent pas votre passé.
Monsieur. Pourquoi vous n'agissez pas de la même manière que vous faites avec d'autres pays quand il s'agit d'Israël? Pourquoi, quand on parle d'Israël, vous vous taisez dans toutes les langues? Ça, c'est une hypocrisie sans nom. Ça fait 74 ans que le peuple palestinien souffre de la colonisation illégale israélienne. Ça fait 74 ans qu'il vit sous les bombes, sous la barbarie de l'armée israélienne. Et depuis le début du mois du Ramadan, cette armée israélienne a agressé le peuple palestinien en Cisjordanie, elle a intensifié ses attaques. Et en Cisjordanie, on a 23 Palestiniens, dont 3 femmes et 4 enfants, qui sont tués. Et si on rapporte ce chiffre depuis le début de l'année 2022, ça veut dire depuis 4 mois, on est à plus de 50 morts. Ça veut dire 5 fois plus que l'année précédente pour la même période. Et aussi à Jérusalem, l'armée israélienne fait des attaques contre les Palestiniens, que ce soit à la mosquée Al-Aqsa ou dans l'ensemble de Jérusalem. Ces agressions sont inacceptables. Et elles violent la Charte des Nations Unies, elles violent le droit international, elles violent les droits humains, des valeurs qui nous sont chères. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que ces valeurs sont chères à la Belgique et que vous les défendrez à tout prix. Mais pourtant, on ne vous a pas entendu sur ce dossier-là. On pourrait s'attendre à des sanctions sévères envers Israël. Mais il n'y a même pas eu une petite condamnation. Même ça, on n'a pas eu. Alors, monsieur le Premier ministre, je me demande qu'est-ce qu'il faut pour que la Vivaldi réagisse à ces agressions israéliennes. Est-ce que la vie des Palestiniens ne compte pas? Est-ce que les morts palestiniens n'ont pas d'importance? Et ma question est très simple, monsieur le Premier ministre, et je profite que monsieur Laouesh pose aussi la question sur le sujet, je vous la pose à vous deux. La Vivaldi va-t-elle prendre ou non des sanctions contre l'État
d'Israël? Et nous voyons que dans cette période où en même temps il y a et le Ramadan et Pâques et la période de Pâques juive qui sont des périodes où malheureusement il y a de très fortes tensions. Et c'est dommage parce qu'en fait ça devrait être une période de paix, une période de vivre ensemble. Comme toujours, la Belgique garde une position au centre, mais une position où elle demande la fin de la violence.
En tout cas, je n'ai pas entendu qu'on allait prendre des sanctions contre Israël. Violation du droit international, violation des droits de l'homme, qualifié d'apartheid par un ensemble d'ONG, pas de sanctions. Tout va bien. Quand ça vient chez Israël, là, la frontière des droits humains et tout, ça s'arrête. En Israël, ça ne marche pas. Pour les Palestiniens, ils n'y ont pas droit au respect des droits humains. J'en prends acte, monsieur le Premier ministre. Vous parlez d'un vivre ensemble dans une période comme celle-ci. Comment peut-on vivre ensemble sous l'occupation, monsieur le Premier ministre? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Il y a un peuple qui est...
Moi, pendant longtemps, j'hésitais sur cette définition-là. Et quelque chose m'a fait basculer.
Encore une fois, mot très connoté dans les mémoires, puisque immédiatement associé à l'Afrique du Sud.
Qui est le premier qui a publiquement parlé d'apartheid? Alors, je ne parle pas du côté palestinien, mais à part les Palestiniens, le premier, ça a été B'Tselem, qui est un organisme israélien. C'est l'organisme des droits de l'homme en Israël. Ils ont fait vraiment une lecture très précise de quelle est la définition d'apartheid, aussi bien onusienne que la Cour pénale internationale. Et ils sont arrivés à la conclusion que, comme ils l'écrivent dans leur rapport, il y a des statuts différents pour les Palestiniens. Soit vous êtes dans les territoires occupés, et encore vous avez des statuts différents parce qu'il y a des zones différentes, A, B, C, etc. Mais disons, les territoires occupés, Jérusalem, et puis les Palestiniens, d'Israël, citoyens israéliens. Ils ont tous des statuts différents. Mais il y a une chose qui les rassemble tous, sans exception. C'est que quel que soit le statut qu'ils ont, ils ont moins de droits que les citoyens juifs. Point à la ligne.
Il y a une responsabilité politique, je pense, de nos gouvernements à ne pas s'aligner sur cette espèce de découpage du monde entre l'ombre et la lumière, le bien et le mal.
On ne peut pas exporter une pomme de Cisjordanie nulle part sans qu'il y ait l'aval israélien. C'est pas possible. C'est vrai aussi de Gaza. C'est pas possible. Tout ce qu'on entend sur les radios et les télévisions, essentiellement, la musique que l'on entend est une musique qui ne tient pas compte de l'aspect colonial.
Et pour finir, comment répondre à cette question? Que signifie réellement du fleuve à la mer? Ce slogan tant décrié s'oppose à la fragmentation de la terre et du peuple palestinien par l'occupation et la discrimination israélienne. Ces dernières semaines, alors que les Palestiniens se soulevaient dans leur patrie, dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier, vous avez probablement entendu le slogan « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». Vous avez peut-être également entendu des affirmations selon lesquelles ce slogan serait antisémite, voire génocidaire. Le 19 mai, par exemple, le New Yorker Union a été largement attaqué pour avoir tweeté « Solidarité avec les Palestiniens du fleuve à la mer » qui ont mené hier une grève de 24 heures pour la dignité et la libération. Que ce soit par ignorance sincère ou par mauvaise foi, les critiques de la formulation du fleuve à la mer ont fait valoir que le syndicat et d'autres qui ont utilisé ce slogan le mois dernier appelaient implicitement non seulement au démantèlement de l'État d'Israël, mais aussi au nettoyage de l'ensemble de l'État d'Israël. Région du Jourdain à la mer Méditerranée, une zone englobant la Cisjordanie, Gaza et tout Israël à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues d'avant 1967. De sa population juive. Le récent soulèvement palestinien laisse présager une lutte future dans laquelle la ligne verte n'aurait aucune importance, voire existe, car dans tout le pays, les Palestiniens se sont mobilisés collectivement à grande échelle sous leur bannière nationale. L'expression « du fleuve à la mer » reflète cet avenir comme aucune autre, car elle englobe tout l'espace dans lequel les droits des Palestiniens sont bafoués. C'est dans cet espace que les Palestiniens cherchent à vivre librement. C'est à travers cet espace et au-delà des divisions politiques et géographiques imposées par le régime israélien que les Palestiniens doivent s'unir pour créer le changement. C'est cet espace que les Palestiniens appellent leur chez-soi, peu importe comment les autres l'appellent. Du fleuve à la mer est une réplique à la fragmentation de la terre et du peuple par l'occupation et la discrimination israélienne. Les Palestiniens ont été divisés de multiples façons par la politique israélienne. Certains réfugiés palestiniens se voient refuser leur rapatriement en raison des lois israéliennes discriminatoires. Il y a des Palestiniens privés de droits égaux qui vivent sur leur territoire, sur le territoire israélien internationalement reconnu en tant que citoyens de seconde zone. Il y a des Palestiniens qui vivent sans droit de citoyenneté sous l'occupation militaire israélienne en Cisjordanie. Il y a les Palestiniens dans une ville juridique à Jérusalem, occupée et menacée d'expulsion. Il y a des Palestiniens à Gaza qui vivent sous le siège israélien. Tous souffrent d'une série de politiques dans un système singulier de discrimination et d'apartheid. Un système qui ne peut être remis en question que par leur opposition unifiée. Tous ont le droit de vivre librement sur la terre, du fleuve à la mer. Après tout, il est bien facile de dominer un peuple divisé, menant différentes batailles sur différents fronts, que de dominer un peuple uni dans une seule bataille pour les mêmes droits universels. Puisque les sionistes luttent pour présenter un argument convaincant contre la liberté, la justice et l'égalité pour tous les peuples du pays, ils cherchent plutôt à attaquer le message et le messager. Lorsque les Palestiniens proclament du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. De nombreux sionistes affirment qu'il s'agit d'un appel palestinien au génocide. Mais comme l'a noté l'historien Maha Nassar, il n'y a jamais eu de position palestinienne officielle appelant au retrait des Juifs de Palestine. Les liens entre cette expression et l'éliminationnisme pourraient être le produit d'une campagne médiatique israélienne suite à la guerre de 1967, qui affirmait que les Palestiniens voulaient jeter les Juifs à la mer. En fait, l'expression trouve son origine dans un appel plus large à l'établissement d'un État démocratique laïque dans toute la Palestine historique. L'affirmation selon laquelle l'expression « du fleuve à la mer » véhicule une intention génocidaire ne repose que sur des documents historiques, mais plutôt sur le racisme et l'islamophobie. Cette logique tordue n'est pas réservée uniquement aux Palestiniens. Les groupes marginalisés sont souvent accusés de ne pas être dignes de confiance et d'avoir des arrière-pensées profondément ancrées visant à détruire la société. Les Juifs devraient bien connaître ce trope, car il constitue depuis longtemps un élément central de l'antisémitisme. De même d'ailleurs que l'animalisation de la population que l'on veut éliminer. Lorsque nous appelons à une Palestine libre du fleuve à la mer, c'est précisément le système de domination existant auquel nous cherchons à mettre fin pour trouver un État dans lequel les Palestiniens peuvent vivre dans leur patrie en tant que citoyens libres et égaux, sans être dominés par les autres, ni les dominer. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au mois prochain pour une nouvelle revue de presse. Au revoir.